faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Cindy, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 14 janvier et aujourd'hui nous allons parler du lien entre le sommeil et la mémoire. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous dormons? Comment cela impacte-t-il nos capacités de mémorisation? Et quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur la mémoire? Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevrons le docteur Géraldine Roche, directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste de la mémoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons d'abord un tour des infosciences de la semaine. Et on commence en Antarctique, où une équipe de chercheurs vient d'extraire avec succès des échantillons de glace à 2800 mètres de profondeur. Ce sont les chercheurs de Billon d'Épica qui sont à l'origine de ce forage. Regroupant 12 institutions européennes, ce projet vise à reconstituer l'histoire climatique de la Terre en forant la calotte glaciaire. La calotte glaciaire renferme en effet des bulles de gaz et des particules témoins de la composition de l'atmosphère au moment de la formation de la glace. En creusant, on peut donc remonter le temps et avoir un aperçu de l'évolution atmosphérique de notre planète. Avec ce forage record de 2,8 km de profondeur, les scientifiques ont pu extraire des carottes de glace datant d'il y a 1,2 million d'années. C'est 400 000 ans de plus que ce qui avait été atteint lors de la dernière extraction de ce type en 2004. La capacité d'adaptation du cerveau pourrait bien avoir un rôle crucial dans la résilience au trauma, d'après les chercheurs de l'étude Remember. Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme 13 novembre, porté par l'INSERM, le CNRS et ESAM Université. Elle compte parmi ses participants une centaine de survivants aux attentats de 2015. L'objectif, étudier les troubles de stress post-traumatique. Ces troubles se traduisent par la résurgence involontaire de souvenirs de l'événement traumatique. Par exemple, ici, les victimes revivent sans cesse l'attentat. Avec cette étude, les chercheurs ont réussi à relier ces mémoires intrusives à une défaillance dans le mécanisme cérébral permettant de contrôler les souvenirs. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut se rétablir avec le temps et donc faire disparaître avec lui les troubles post-traumatiques. On pourrait ainsi envisager de nouvelles formes de thérapie qui se focaliseraient sur ce mécanisme pour en quelque sorte le remuscler. L'équipe poursuit actuellement les travaux sur le sujet. À partir du 20 janvier, le bisphénol A ou BPA sera proscrit des contenants alimentaires en Europe. Ce composé chimique est utilisé pour la synthèse de différents plastiques et résines. Il se retrouve dans de nombreux produits de la vie quotidienne, allant des appareils électroménagers aux emballages. Le problème, c'est que lorsqu'il est utilisé dans un contenant alimentaire, le bisphénol peut passer du contenant à l'aliment et ensuite être ingéré par l'organisme humain. Or, l'exposition à ce produit est néfaste pour notre organisme. Considéré comme un perturbateur endocrinien, il aurait des effets indésirables sur le système immunitaire et pourrait être responsable de troubles de la reproduction et du métabolisme. Suite aux travaux de recherche de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, une interdiction sur les contenants alimentaires avait déjà été mise en place en France en 2015. Il aura fallu 10 ans avant que l'Union européenne suive le mouvement. Et si la loi entre en vigueur dans moins d'une semaine, les fabricants bénéficieront tout de même d'une période de 18 mois de transition et des dérogations pourront être accordées pendant 3 ans. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 6 ans, le 14 janvier 2019, l'UNESCO lançait la première journée mondiale de la logique. Cette journée a pour but de mettre en lumière cette science du raisonnement. Elle est omniprésente dans notre quotidien, que ce soit dans la science, la technologie ou la philosophie. Pourtant, nous n'en avons encore que très peu conscience, estime la directrice générale de l'UNESCO. Avec cette journée, elle entend favoriser la coopération internationale, soutenir les activités des institutions s'intéressant à la discipline et aider le public à mieux comprendre la logique et ses implications. Elle est donc célébrée chaque année le 14 janvier, date choisie en l'hommage à deux figures emblématiques de la logique, Alfred Tarski, logicien philosophe à qui on doit notamment la théorie sémantique de la vérité, et Kurt Gödel, logicien et mathématicien à l'origine du théorème de l'incomplétude.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Problèmes au travail, examens à venir ou encore surexposition aux écrans, le manque de sommeil a de multiples facteurs. Et selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 15 à 20% des Français seraient atteints d'insomnie. Or, la qualité et la durée de notre sommeil influencent directement le développement et la préservation de notre santé. Ils joueraient notamment un rôle essentiel dans la formation et la consolidation de nos souvenirs.
Et pour mieux comprendre le lien entre sommeil et mémoire, nous sommes aujourd'hui accompagnés du docteur Géraldine Roche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vos travaux portent notamment sur les liens entre sommeil et troubles cognitifs. Avant de parler de l'importance du sommeil, on peut peut-être faire un point sur notre mémoire. Y a-t-il différentes formes de mémoire ?
Tout à fait. Il y a plusieurs formes de mémoire. Il y a d'abord ce qu'on va appeler la mémoire épisodique. Donc, c'est la mémoire de tous les événements qu'on a personnellement vécu. Par exemple, vous vous rappelez de ces vacances au ski où vous êtes cassé la jambe. Vous êtes capable de me raconter dans les moindres détails la scène, de redonner des émotions et d'avoir des images, en fait, dans votre tête. Ensuite, il va y avoir la mémoire sémantique et la mémoire de toutes les connaissances. Donc, on sait que Rome est la capitale de l'Italie. Par contre, je suis sûre que vous ne pouvez pas me dire où et quand vous avez appris cette information. Ça fait partie des informations que vous savez, mais que vous ne pouvez pas situer précisément dans le temps et dans l'espace. Et puis après, il y a d'autres formes de mémoire. Par exemple, la mémoire procédurale, c'est la mémoire de toutes les habiletés, les savoir-faire. Donc, je sais jouer du piano, je sais faire du ski, je sais tricoter, voilà. Donc, des choses qu'on apprend à force de répéter les actions. Et puis, il y a d'autres formes de mémoire, des mémoires à court terme, à long terme, en fait, voilà, qui vont interagir les unes avec les autres.
Et concrètement, quand on dort, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mémoire ?
Alors en fait, le sommeil, il est vraiment important parce qu'il va permettre de consolider tous les apprentissages qu'on va avoir réalisés au cours de la journée. Alors le sommeil, il sert aussi à bien apprendre, évidemment, parce que si on a mal dormi, ben forcément, la nuit d'après, la journée d'après, on va avoir du mal à se concentrer, à apprendre les informations. Mais vraiment, ce qui est important, c'est qu'au cours du sommeil, eh bien, toutes les cellules qui ont été activées par les apprentissages au cours de la journée, elles vont se réactiver. Et ça va permettre, en fait, d'ancrer dans nos réseaux de neurones notre apprentissage pour qu'il soit fixé dans notre mémoire à long terme et qu'on puisse le rappeler, non pas que le lendemain, mais peut-être une semaine ou un mois plus tard.
Et quelles sont les différentes phases du sommeil ?
Alors, on distingue dans le sommeil, on va dire, deux grandes phases. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et le sommeil lent, lui-même, il est divisé en trois phases qui sont de profondeur croissante. Donc, on a d'abord le stade 1 qui est du sommeil très léger. C'est un peu la phase d'endormissement. C'est la transition entre la veille calme et le sommeil confirmé. Donc ça, c'est une phase de sommeil qui est très courte en durée, hein, parce que si on n'a pas de problème de sommeil, on s'endort qu'une fois et on fait très peu de ce stade de sommeil. Ensuite, il va y avoir le stade 2 de sommeil, donc là, qui est très important en quantité, c'est 50 à 60% de la nuit. Donc c'est un stade de sommeil qui est très important, notamment pour la mémorisation. Et puis ensuite, on va rentrer dans le sommeil lent profond. Donc il y a un sommeil qui est très récupérateur sur le plan physique, parce qu'on va sécréter l'hormone de croissance, qui est importante, évidemment, chez les enfants, chez les ados, mais l'hormone de croissance, elle sert à tous les âges de la vie pour réparer toutes les petites lésions qu'on va avoir dans nos cellules. Et en fait, ce sommeil lent profond, au départ, on pensait qu'il était uniquement impliqué dans la récupération physique, mais il est très important aussi pour la mémorisation. Et puis donc, l'autre stade de sommeil qu'on va avoir, c'est le sommeil paradoxal. Donc c'est souvent le sommeil qui est associé au rêve, mais en fait, on rêve pendant toutes les phases de sommeil. Et c'est un sommeil qui occupe à peu près 20-25% de la nuit.
Et donc vous parlez du rêve, est-ce que le fait que nous rêvons a un lien avec le fait que notre mémoire est remobilisée pendant qu'on dort ?
Alors c'est pas si évident que ça parce que y a des travaux qui ont été menés pour voir si quand on apprend une tâche et qu'on en rêve la nuit, est-ce qu'on est meilleur ? Alors ça a été montré quelques fois, mais c'est pas très facile à reproduire comme résultat. Parce qu'en fait, pendant le rêve, notre cerveau, il va prendre des morceaux de ce qu'on a vécu dans la journée, mais il les prend un petit peu, on va dire, au hasard, et il va les mélanger et créer des scénarios qui vont être plus ou moins incroyables ou plus ou moins bizarres. Mais c'est pas vraiment une réexécution de l'apprentissage qu'on a fait. Donc, on peut pas se dire, ben voilà, je vais apprendre, par exemple, un nouveau morceau de piano pour un récital que je dois faire. On va pas forcément rêver et rejouer exactement les notes pendant notre rêve. Donc ça ne va pas forcément booster la mémorisation.
Est-ce que le sommeil, il influence aussi notre mémoire émotionnelle ?
Alors oui, le sommeil, en fait, il a plein de fonctions différentes. Et une des fonctions, c'est de permettre de réguler nos émotions. Et en fait, il a été montré que la version rêvée d'un événement, elle a une intensité émotionnelle plus faible que la version vécue. Donc ça veut dire en fait que le rêve, le sommeil, et ça se fait surtout pendant le sommeil paradoxal, il permet en fait d'absorber, d'intégrer, de digérer les émotions pour pas qu'elles nous envahissent le lendemain et qu'on ait... pris un petit peu de recul par rapport à la situation. Donc, on dit que voilà, le sommeil, il sert à mémoriser, mais il sert aussi à oublier, à atténuer cette intensité émotionnelle.
Et donc, on pourrait peut-être revenir un peu sur ce principe de phase de sommeil. Vous en avez parlé rapidement, la mémorisation, la mémoire, elle est mobilisée de manière différente selon les phases de sommeil. Comment ça fonctionne ?
Au départ, en fait, on pensait que le sommeil lent, il était plutôt impliqué pour ce qu'on va appeler la mémoire déclarative. Donc, c'est notamment la mémoire épisodique, la mémoire de nos cours. Voilà, on a trois chapitres d'histoire géo à apprendre. On pensait que c'était renforcé principalement pendant le sommeil lent profond. Et puis qu'à l'inverse, le sommeil paradoxal, lui, il allait servir plutôt à renforcer bah, justement ce nouveau morceau de piano qu'on veut faire, où on est en train d'apprendre une nouvelle habileté motrice, par exemple, dessiner quelque chose en miroir, donc apprendre à dessiner, mais un peu à l'inverse de ce qu'on fait. Voilà. Et puis, plus il y a eu d'études, plus il y a eu de résultats contradictoires, et finalement, on se rend compte que tous les stades de sommeil sont importants pour toutes les formes de mémoire. Et qu'en fait, la mémorisation, elle sera jamais aussi bonne que quand on a les différentes phases de sommeil qui se succèdent.
Et comment ça se matérialise dans notre cerveau, cette mémoire ?
Alors la mémoire, c'est pas une question à laquelle il est facile d'apporter une réponse en 30 secondes, mais en fait la mémoire, ça correspond en fait à des réseaux de neurones qui sont connectés. Donc il y a des réactions chimiques qui vont se passer au sein des cellules et qui vont permettre en fait de graver. C'est un peu comme un circuit électrique en fait. C'est comme si on gravait et on sait que voilà, ce circuit-là, quand il est activé, il permet de réactiver tel souvenir, par exemple la chute au ski ou le jour de son mariage, la naissance d'un enfant, etc. Et donc il y a plein de phénomènes qui peuvent se produire quand on est éveillé, mais qui vont être vraiment favorisés pendant le sommeil.
Et donc cette mémoire quand on dort, est-ce qu'elle est active dans le sens où, parce qu'on se souvient pas de ce qui se passe autour de nous pendant qu'on dort, donc comment on peut expliquer que donc la mémoire est quand même mobilisée pendant qu'on dort sans qu'on puisse capter ce qui se passe autour de nous?
Alors, ce qui va se passer en fait pendant le sommeil, c'est que donc les cellules qui ont été activées, elles vont se réactiver. Mais en fait, ce qui va dire à notre cerveau qu'il faut que ça se réactive, c'est qu'on va avoir besoin de réutiliser ces informations ultérieurement. Donc, si le prof vous dit voilà, je vous donne un cours, la semaine prochaine il y a une évaluation sur son cours, là vous avez intégré que ces informations-là, il faut les retenir. Donc, c'est celles-là qui vont être activées préférentiellement. C'est pareil si on vous dit bah voilà, je vous donne plein de choses à apprendre. Et il y aura une récompense en fait si vous avez une très bonne note. Ben voilà, ça c'est un aspect aussi motivationnel qui va aider à mobiliser la mémoire.
Des phases de sommeil courtes comme les siestes sont-elles bénéfiques pour la consolidation de la mémoire ?
Tout à fait. Il a été montré que des siestes, alors courtes ou plus ou moins longues, en fait ça dépend des études, peuvent apporter le même bénéfice qu'une nuit complète de sommeil. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand on est dans des périodes de révision où des fois on rogne un petit peu sur le sommeil nocturne parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Alors c'est pas forcément une bonne chose hein, de rogner sur le sommeil nocturne, mais des fois on est obligé. Eh bien il faut essayer aussi d'intercaler dans son programme de révision voilà, une petite sieste qui va déjà être récupératrice sur le plan attentionnel, on va se sentir beaucoup mieux, on fait baisser les hormones de stress et puis on est capable après d'apprendre à nouveau plein de choses. Et ces apprentissages qu'on aura eus par exemple le matin, ils vont pouvoir être consolidés après la sieste. Ouais.
Et donc si on a manqué de sommeil pendant la nuit, qu'on a eu une nuit beaucoup plus courte que d'habitude, la sieste elle va pouvoir rattraper ce qu'on a perdu pendant cette nuit ou c'est encore autre chose et ça compense pas forcément ?
Alors ça compense pas totalement en fait, mais c'est vrai que ça va être bénéfique. Alors la sieste c'est quelque chose qu'on peut recommander si elle est courte, si elle est faite en début d'après-midi. Voilà, et qu'on dépasse pas, si on fait une sieste de 3 heures, forcément que ça va avoir un impact sur notre sommeil nocturne et que la nuit d'après, on va avoir du mal à s'endormir. Mais si la sieste, elle est courte, ça pose aucun problème. Et au contraire, c'est quelque chose qu'on peut recommander justement parce que si on est complètement fatigué et qu'on se dit non, faut pas que je dorme parce que j'ai encore plein de révisions à faire, de toute façon, au bout d'un moment, le cerveau, il sature et il n'arrive plus à apprendre. Donc, il vaut mieux se dire, voilà, je fais une pause, je fais une sieste et peut-être qu'on n'arrivera pas à dormir, mais peut-être qu'on y arrivera. Et au final, on sera plus efficace pour continuer à apprendre.
C'est quoi les conséquences directes du coup de ce manque de sommeil sur la mémoire ?
Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ces problématiques-là. Donc, il y a des conséquences évidemment sur les performances scolaires. Les enfants, les ados qui dorment mal, eh bien, ils ont beaucoup de difficultés à se concentrer à l'école, ils ne sont pas très attentifs en cours, donc forcément, ils apprennent moins bien. Il y a aussi des travaux, donc là en tout cas c'est ce qui moi m'intéresse beaucoup dans mes recherches sur le vieillissement. On voit qu'à mesure qu'on vieillit en fait la qualité du sommeil s'altère et ça peut être associé à des troubles cognitifs. Et maintenant l'hypothèse qui est faite c'est que même les troubles du sommeil ça pourrait être un facteur de risque de certaines maladies de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer. Donc c'est important de se dire qu'il faut préserver un sommeil de bonne qualité, justement pour se mettre dans les meilleures conditions pour que son cerveau continue à bien fonctionner, que la mémoire soit toujours vive et qu'elle fonctionne bien.
On va revenir sur le vieillissement du cerveau dans quelques instants, mais peut-être d'abord rester sur cette notion de manque de sommeil. On parle souvent du fait de ne pas dormir, des nuits blanches, mais est-ce que le fait d'avoir un temps de sommeil long, mais fractionné de micro-réveils, est-ce que ça aussi, ça peut impacter la mémoire, ou est-ce que finalement, elle s'adapte notre cerveau s'adapte à ses soubresauts pendant la nuit?
Quand on a un sommeil qui est entrecoupé en fait de nombreux réveils, c'est pas très bon non plus. En fait, on a la sensation que le sommeil il est pas récupérateur. Donc déjà sur le plan physique, on va se sentir moins en forme que si on a dormi le même temps mais sans que ce soit entrecoupé par ces réveils. Et dans le cadre du vieillissement, il a été montré que les gens qui ont un sommeil qui est très fragmenté, ils ont un risque de déclin cognitif qui est plus important. Donc probablement qu'en tout cas ça a des conséquences au niveau cérébral qui vont se traduire par des troubles de mémoire.
Ouais. Est-ce que l'impact du sommeil sur la mémoire, c'est le même pour un enfant et pour un adulte ?
Alors là aussi, il y a beaucoup d'études. Alors chez l'enfant, les travaux ont démarré un petit peu plus tard. Et il semble qu'il y ait des résultats qui sont contradictoires par rapport à ce qu'on a chez l'adulte. Il y a certaines formes de mémoire qui dépendent un petit peu moins du sommeil chez l'enfant. Par exemple, il me semble que l'apprentissage procédural, donc par exemple, j'apprends à dessiner en miroir, ça dépend un petit peu moins du sommeil que chez l'adulte. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'études pour l'affirmer à 2000%. En tout cas, on sait que chez les enfants, il y a vraiment énormément d'apprentissage. C'est pas que les apprentissages scolaires, mais c'est aussi la motricité fine, le langage. Donc il y a vraiment un besoin de sommeil qui est très très important, et il faut faire attention à ce qu'ils aient bien leur quota de sommeil. Donc bien comprendre en fait la physiologie de son enfant pour que on le mette dans les meilleures conditions.
Et au-delà de ce moment de l'enfance, est-ce qu'il y a d'autres moments dans la vie où le sommeil est particulièrement crucial pour la mémoire, ou passer ce cap de l'enfance, c'est à peu près homogène pour toute la vie ?
Non, je pense que le sommeil, il est important à tous les âges de la vie. On voit bien, chez l'enfant, chez l'ado et chez le jeune étudiant, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire. Mais là, on voit dans les grandes questions qu'il y a sur le vieillissement, on essaie de comprendre justement à quelle période, en fait, avoir un sommeil de bonne qualité doit être déterminant pour notre vieillissement. Et il semble qu'en tout cas, le milieu de l'âge adulte, 40, 50 ans, ce soit vraiment une période capitale. Et c'est vrai que c'est un âge où on a des enfants, on a beaucoup de pression professionnelle, etc. Et il ne faut pas du tout sacrifier son sommeil, parce que c'est peut-être seulement 20 ans plus tard qu'on va se rendre compte que il y a des conséquences cérébrales et cognitives. Donc non, c'est important, et c'est d'autant plus important que le sommeil, il est intimement lié aussi à la santé mentale, en fait, à la dépression, à l'anxiété. Donc il faut vraiment faire attention à avoir un sommeil qui soit le plus régulier, le plus stable, le plus récupérateur pour bien fonctionner.
Donc c'est vraiment, on observe un déclin du temps de sommeil à partir de 40 ans à peu près ?
C'est même un petit peu avant, c'est au milieu de la troisième décennie où on voit en tout cas des modifications du sommeil, avec une réduction importante du sommeil lent profond, donc celui qui est le plus récupérateur et qui sert aussi beaucoup pour la mémoire. Et après, on voit globalement que maintenant, avec les nouvelles technologies, les écrans, etc., toutes les tranches d'âge, il y a une réduction du temps de sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui aura des conséquences qui vont être vraiment dévastatrices dans quelques années. On va le mesurer seulement dans quelques années, tout ça.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Géraldine Roche, directrice de recherche à l'INSERM, pour parler de sommeil et de mémoire. On parlait des étudiants à l'instant. Est-ce que la mémoire, elle a aussi cette capacité à trier ce qui est important et ce qui l'est moins ?
Oui, le sommeil, il va jouer aussi une fonction importante dans l'oubli. L'oubli, en fait, dans le langage courant, c'est toujours perçu comme un défaut de la mémoire. Mais il faut bien comprendre, en fait, qu'on peut pas mémoriser tout et qu'il est important qu'on oublie des choses. Par exemple, moi, si je me rappelle de tout ce que j'ai vu sur le trajet pour venir de mon laboratoire jusqu'à votre studio, que je me rappelle des plaques d'immatriculation des voitures qui étaient devant moi, de la couleur, de la marque de la voiture, c'est une information qui sert strictement à rien. Donc, si je m'encombre le cerveau de ces informations-là, eh bien, à un moment, en fait, je vais pas être capable d'apprendre les informations qui sont vraiment pertinentes pour moi. Et donc, il y a quelques années, quand j'étais en postdoc en Belgique, j'ai fait une étude justement sur ce qu'on appelle l'oubli dirigé. Et j'ai proposé à des étudiants d'apprendre des mots. Et en fait, chaque mot était... Donc, je présentais les mots et chaque mot était suivi d'une consigne à retenir ou à oublier. Et donc, je leur disais qu'on allait se revoir quelques jours après et que j'allais leur demander de rappeler les mots qui étaient à retenir. Mais c'est pas ce que je leur ai demandé. Je leur ai présenté tous les mots et je leur ai demandé de me dire s'ils les avaient déjà vus ou pas, peu importe la consigne. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que les étudiants qui avaient dormi après l'apprentissage, ben voilà, ont rappelé beaucoup de mots qui étaient à retenir et très peu qui étaient à oublier. Donc, leur cerveau a bien fait le tri pendant le sommeil et a consolidé ce qui était à retenir et très peu ce qui était à oublier. Par contre, les étudiants qui n'ont pas dormi, eux, en fait, eh ben, ils ont rappelé beaucoup de mots à retenir, donc comme les autres, parce qu'on est capable vraiment de fonctionner normalement même après une nuit blanche. Par contre, ils ont rappelé beaucoup, beaucoup de mots qui étaient à oublier. Donc, en fait, ils se sont encombrés l'esprit et le tri s'est pas fait comme il aurait dû se faire. Si bien que, ben, en fait, si on applique ça à des situations de révision, les étudiants, en fait, ils vont avoir un message qui va être beaucoup moins clair parce qu'il est parasité, en fait, par plein d'informations qui servent à rien. Donc, c'est important aussi de dormir pour permettre de faire ce tri.
Et comment il s'effectue ce tri? Comment le cerveau est capable de comprendre ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier?
Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, quand on fait cette tâche-là, donc les étudiants étaient aussi placés dans l'IRM, on a vu que pour les mots qui étaient à retenir, il y avait une petite activité qu'on pouvait observer dans l'hippocampe. C'est un peu en fait comme si l'hippocampe, il mettait une petite étiquette sur chaque souvenir qu'il doit consolider pendant la nuit. Et en fait, pendant le sommeil, il va regarder ces étiquettes et puis dire « bon bah ok, ceux-là, je les consolide ». Et puis, bah, ceux-là, ils n'ont pas d'étiquette, je les oublie. Alors, ce n'est pas infaillible. Hein. Il y a certains mots, par exemple, quand vous avez un mot qui est très distinctif par rapport aux autres. Par exemple, je me rappelle, il y avait le mot « dollar ». C'était un des seuls mots qui était anglais par rapport à tous les mots en français. Bah, celui-là, même s'il était oublié, en fait, il avait attiré notre attention. Donc, bah, il avait eu par erreur une étiquette et il avait été renforcé chez beaucoup de sujets. Mais donc, c'est vraiment ce qui se passe lors de l'apprentissage. Voilà, cette petite étiquette qui est mise sur l'hippocampe qui va déterminer ce que vont devenir les souvenirs pendant la nuit.
Alors, justement, peut-être avant de poursuivre, repréciser ce que c'est que l'hippocampe et comment ça fonctionne.
Donc l'hippocampe, en fait, c'est une petite structure qui se trouve dans le lobe temporal. Donc le lobe temporal, c'est le lobe qui se trouve derrière notre oreille. Donc c'est une structure qui est en profondeur dans notre cerveau et qui est vraiment la structure clé de la mémoire. Sans hippocampe, la mémoire fonctionne moins bien. Alors, ça dépend. Si on a eu une atteinte de l'hippocampe à la naissance, par exemple, notre cerveau, il va être capable de s'adapter, il va utiliser d'autres réseaux. Mais on voit dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer, où il y a une atteinte de l'hippocampe, ça se traduit par des troubles de mémoire.
Et on parlait un petit peu de la mémoire en fonction de l'âge. Est-ce que le vieillissement de notre cerveau a un impact sur les bénéfices du sommeil?
Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que étudier le lien entre le sommeil et la mémoire chez le sujet âgé, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup intéressé les chercheurs, on va dire jusqu'au milieu des années 2000. Maintenant, on comprend que c'est vraiment un enjeu majeur parce qu'on voit que aussi la qualité du sommeil, ça détermine la structure du cerveau, l'atrophie, donc le fait que les cellules elles se ratatinent ou qu'elles meurent. Donc là, il y a un petit peu plus d'études, mais on voit que les résultats, ils sont pas très consensuels non plus. Voilà, il y a des études qui montrent que la consolidation elle est préservée, d'autres qui montrent que c'est perturbé. En tout cas, ce qui ressort, c'est que les personnes âgées qui ont le plus de sommeil lent profond au cours de la nuit sont celles qui consolident le mieux les apprentissages. Mais il y a aussi le fait que le vieillissement, il touche pas de la même manière toutes les formes de mémoire. En fait, si vous pensez à vos grands-parents, ils sont toujours capables de faire du vélo, de tricoter. Par contre, des fois, ils ont du mal à rappeler ce qu'ils ont mangé avant-hier, qui est passé de leur rendre visite. Donc, c'est plutôt en fait la mémoire épisodique qui va être touchée. Et la mémoire procédurale, elle reste préservée jusqu'à un âge assez avancé.
Et on parlait tout à l'heure du manque de sommeil au fur et à mesure qu'on vieillit. Est-ce qu'il y a des méthodes pour limiter cette baisse du sommeil, un moyen de prévenir ce problème ?
Ce qu'on entend beaucoup dans la littérature, c'est que, en fait, pour préserver un sommeil de bonne qualité, bah déjà, il faut être assez à l'écoute des éventuels troubles qu'on peut avoir. Par exemple, il y a une pathologie du sommeil qui est très fréquente chez les sujets âgés, c'est les apnées du sommeil. Et ça, c'est une pathologie pour laquelle il y a un traitement qui marche très bien. Donc, dès qu'on a les signes des apnées du sommeil, donc qui sont les ronflements, les pauses respiratoires, chez les femmes, les symptômes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ça peut être des troubles de l'humeur, des maux de tête au réveil. Bon, bah, quand on a ça et qu'on sent en fait, qu'on se réveille en étant peut-être même plus fatigué que quand on s'est couché, ça vaut le coup en fait, d'aller consulter un médecin spécialiste du sommeil. Parce que ça, on sait le soigner et ça va forcément améliorer notre quotidien. Après, ce qui est important aussi, c'est de se dire que, en fait, notre sommeil, il est piloté par notre horloge biologique. Et en fait, notre horloge, elle a besoin de la lumière du jour. Donc, en fait, plus on vieillit, en fait, plus il faut être vigilant à ça. Il ne faut pas rester enfermé à la maison, ne pas voir la lumière du soleil. Rester juste sous les néons, ça, c'est quelque chose qui va être néfaste pour nos rythmes. Donc, il faut essayer de profiter de chaque opportunité qu'on a d'aller dehors, de s'exposer à la lumière du jour. Et puis, il faut aussi faire des activités, il faut continuer à avoir un rythme. Le matin, on fait les courses, l'après-midi, on fait une randonnée avec les copines ou on va au cinéma, etc. Bah, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider, en tout cas, à bien maintenir les rythmes. Et puis, bah, l'activité physique, c'est quelque chose qui est important aussi pour le sommeil. C'est vrai que quand on a une dépense énergétique qui est suffisante, le soir, on est fatigué et on va trouver le sommeil.
Vous parliez tout à l'heure d'apnée du sommeil. Comment ça impacte ça, la mémoire ?
Alors, les apnées du sommeil, elles impactent la mémoire de deux manières. C'est déjà, il va y avoir, pendant l'apnée, en fait, on a une insuffisance de l'apport d'oxygène au cerveau. Donc, ça veut dire que ça va créer potentiellement plein de petites lésions dans le cerveau et probablement dans des régions qui sont importantes pour la mémoire. Donc, ça va être néfaste. Donc les apnées, en fait, c'est des pauses respiratoires qui durent au minimum 10 secondes. Mais on a des patients qui peuvent faire des pauses de plus d'une minute. Et donc, ils font ça très, très régulièrement au cours de la nuit. Donc, ça veut dire que le cerveau, il est privé d'oxygène un certain nombre de minutes au cours de la nuit. Donc, ça va être néfaste. Et puis, il y a aussi le fait qu'à chaque fois que vous faites une apnée du sommeil, vous avez une réaction d'éveil. En fait, vous vous réveillez assez subitement pour reprendre votre respiration. Et ça fragmente le sommeil. Et on a vu que ça aussi, c'était mauvais pour la mémoire.
Vous parliez tout à l'heure de vos travaux sur le lien entre troubles du sommeil et Alzheimer. Est-ce qu'un sommeil de mauvaise qualité, c'est un facteur de risque pour cette maladie ?
Alors, c'est ce qu'on pense, mais pour l'instant, en fait, les chercheurs, ils sont vraiment dans l'idée que c'est un cercle vicieux. Ce qui va se passer, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, on a des lésions qui vont se faire dans différentes régions du cerveau, et notamment dans les régions qui contrôlent le sommeil. Donc, ça va avoir pour conséquence des troubles du sommeil. Mais on pense maintenant, depuis une dizaine d'années, que les troubles du sommeil, ça peut être aussi un facteur de risque qui va favoriser l'apparition des lésions. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux où les liens entre les deux sont vraiment intriqués. Et on se dit que si c'est un facteur de risque, il faut essayer en tout cas de trouver tous les moyens possibles pour essayer de limiter l'impact d'un sommeil de mauvaise qualité. Donc, trouver des méthodes pour améliorer le sommeil sans passer forcément par les médicaments, mais vraiment essayer d'améliorer naturellement les rythmes biologiques, le sommeil, pour que les gens, en tout cas, peut-être qu'ils développeront quand même la maladie, mais peut-être que ce sera plus tard. Si c'est 5 ans plus tard, c'est déjà 5 ans d'autonomie de gagner. Ou en tout cas, ralentir sa progression.
Et comment on en est venu à penser qu'il y a un lien entre les troubles du sommeil et la maladie d'Alzheimer ?
En fait, en 2013, il y a une étude qui a révélé en fait une nouvelle fonction du sommeil, qui est une fonction en fait de nettoyage du cerveau. En fait, dans la maladie d'Alzheimer et dans d'autres maladies, il y a des protéines toxiques qui s'accumulent entre les neurones. Et en fait, ces protéines, elles seraient nettoyées grâce à un système qu'on appelle le système lymphatique. Alors, c'est un peu compliqué comme nom. Mais en fait, il faut se dire que dans tous les organes du corps, on a un système lymphatique qui nettoie, sauf dans le cerveau. Et donc là, c'est un système qui est analogue en fait, au système lymphatique des autres organes, mais qui repose sur des cellules gliales, donc qui sont les autres cellules qu'on a dans le cerveau avec les neurones. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle lymphatique. Et en fait, on pense que pendant le sommeil, et en particulier pendant le sommeil lent profond, nos cellules, elles se ratatineraient un peu de manière à laisser plus de place pour le liquide en fait, qui circule entre les cellules. Et comme ça, ils pourraient récupérer tous les déchets toxiques et les éliminer. Donc ça veut dire que si vous avez des troubles du sommeil, eh bien, vous dormez moins, vos cellules elles vont être plus actives pendant la nuit, donc elles vont produire plus de déchets, et votre système de nettoyage, il ne peut pas se faire. Donc, vous allez laisser en fait, s'accumuler ces protéines toxiques, et ça va avoir des conséquences néfastes pour votre cerveau.
Est-ce que le travail de la mémoire, quand on dort, ça a un rapport avec le fait que nous rêvons ?
Pas toujours, en fait, parce que on peut rêver d'une tâche qu'on a faite, par exemple, dans la journée, mais ça ne va pas être exactement le même contexte. Voilà, on va avoir mélangé ça avec d'autres éléments de notre journée. Donc, c'est pas si clair, en fait, que ça va avoir un bénéfice sur la mémorisation. Il y a quelques études qui ont montré ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand on travaille sur le rêve, il y a plein de biais, en fait. La personne va peut-être rêver de quelque chose, mais on va voir ce dont elle se rappelle et peut-être pas complètement fidèle, en fait, à ce qu'elle a rêvé. Et puis après, si par exemple, elle est venue au laboratoire, qu'elle a fait une tâche qu'elle a trouvée vraiment horrible à faire, et qu'elle a rêvé, en fait, qu'elle bâillonnait l'expérimentateur, etc., elle va pas forcément le raconter non plus, parce qu'il y a un phénomène d'autocensure, en fait. On va pas oser dire, ben non, dans le rêve, en fait, c'était pas tout à fait comme ce qu'on a fait ensemble, etc. Donc c'est compliqué, en fait, d'établir un lien entre l'apprentissage et le rêve. Il y a pas tant de travaux, en fait, qui montrent ça, ouais.
Vous avez mentionné quelques études donc sur le lien entre sommeil et mémoire. Comment on en est venu à étudier ce lien ? Comment on s'est dit qu'il pouvait y avoir quelque chose entre le sommeil et la mémoire ?
Au départ, ça a été assez intuitif, en fait. Hein. C'est vrai que c'est des personnes qui, par exemple, relisaient des cours et se disaient « Ah bah tiens, en fait, j'ai remarqué que quand je relisais le soir, le lendemain, en fait, les idées étaient plus claires dans ma tête. » C'est vrai qu'on l'a tous fait. Et puis, moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, il y avait toujours un ou deux gars dans ma classe qui enregistraient leurs cours sur une cassette, qui l'écoutaient, etc. Et donc, on voyait que ça marchait pas très, très bien, par contre. Et donc, après, il y a eu toute une... C'est vrai qu'on va dire à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui expliquait que le sommeil était important pour la mémoire. Et donc on a fait beaucoup d'études de privation de sommeil. Donc au départ on faisait de la privation totale, on disait bon voilà, on a un groupe qui dort, un groupe qui dort pas, et on regarde les conséquences sur la mémoire. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet de montrer que le sommeil est important. Et puis après on a voulu aller plus loin en se disant ben oui, mais quel stade de sommeil est important? Donc soit on faisait de la privation juste d'un stade de sommeil, ce qui techniquement est un petit peu plus compliqué à faire, ou alors on privait les sujets du sommeil de début de nuit, parce qu'en début de nuit on fait beaucoup de sommeil lent profond, ou alors en fin de nuit, parce que là on fait beaucoup de sommeil paradoxal. Et donc ça a permis de voir en fait quel type de sommeil était important pour telle forme de mémoire. Et puis après, y a eu beaucoup d'études qui ont apporté des résultats qui n'étaient pas forcément cohérents. Et là, maintenant, on essaye plus de comprendre au niveau cérébral quels sont les mécanismes en fait, qui expliquent le bénéfice du sommeil sur la mémoire.
Et justement, où est-ce qu'on en est dans cette recherche ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées. Maintenant, on sait quelles ondes sont impliquées, comment les souvenirs se réorganisent au niveau du cerveau. Donc ça, c'est des choses qui sont bien comprises. Par contre, au niveau moléculaire, voilà, quelles sont les réactions qui se passent dans les neurones, ça, on n'est pas encore arrivé au bout. Et maintenant, en fait, on essaie de comprendre en fait comment ça se passe dans le vieillissement, dans différentes pathologies de la mémoire, chez l'enfant aussi avec un trouble neurodéveloppemental, pour essayer de voir aussi comment on va pouvoir essayer d'améliorer les choses en prenant en compte leur sommeil, parce que c'est un dénominateur qui est commun en fait, hein, chez les enfants qui ont, on va dire, un trouble neurodéveloppemental, que ce soit trouble de l'attention, les dyslexies, il y a très très souvent en fait des troubles du sommeil, donc c'est important. Voilà, d'essayer de remettre ça bien pour qu'ensuite ils soient capables de faire leur journée d'apprentissage à l'école de la manière la plus adaptée possible.
Et alors justement, il y a une étude qui est sortie récemment. Des chercheurs auraient découvert le mécanisme derrière la formation et la consolidation des souvenirs, du coup. Et vous en avez parlé, les ondes lentes émises lors du sommeil lent rendraient le néocortex, donc si j'ai bien compris, l'emplacement où la mémoire à long terme est stockée, plus réceptif à la formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ?
Alors, l'idée, c'est que, en fait, pendant le sommeil, on va avoir un dialogue entre l'hippocampe et le néocortex. Donc, au départ, quand on apprend les informations, elles ne sont pas stockées dans l'hippocampe, mais par contre, l'hippocampe, c'est un peu la table des matières de nos souvenirs. L'hippocampe, il sait que pour se souvenir de la chute pendant les vacances au ski, il y a telle partie du souvenir qui est stockée à cet endroit du cerveau, telle autre à tel autre endroit, etc. Et en fait, pendant le sommeil, les souvenirs, ils vont se réactiver, donc ça se fait donc principalement pendant le sommeil lent, mais ça peut être aussi pour d'autres apprentissages pendant le sommeil paradoxal, hein, c'est pas exclusif. Et en fait, ces réactivations, elles se font pas à n'importe quel moment de la nuit. Elles se font vraiment au moment où, en fait, on a des ondes lentes qui apparaissent, donc ces ondes qui sont typiques du sommeil lent profond. Et puis, il y a toujours aussi une onde qui va venir par-dessus cette onde lente. C'est ce qu'on appelle un fuseau de sommeil. Donc ça, c'est une onde qu'on a pendant le stade 2. Et en fait, tout ça, ça va stimuler en fait, la réorganisation des traces mnésiques. Donc ça va stimuler le dialogue, le transfert des informations vers le néocortex. Donc au niveau moléculaire, on ne sait pas encore bien comment ça se passe. Mais nous, en imagerie, on est capable de voir qu'en fait, au début, si on teste les sujets, par exemple, le lendemain d'un apprentissage, on va avoir une activité importante dans l'hippocampe. Et puis, si on laisse plusieurs nuits pour que la consolidation puisse se faire et qu'on les reteste, par exemple, au bout d'une semaine, un mois, eh bien, on verra qu'on a de moins en moins d'activité dans l'hippocampe pour le rappel d'un souvenir, mais par contre, beaucoup d'activité dans le néocortex et en particulier dans les aires frontales. Donc, ça montre bien que ça se réorganise dans le cerveau.
Et vous parlez d'imagerie, c'est comme ça qu'on arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau quand on dort et que la mémoire est stimulée.
En tout cas, c'est une des méthodes oui, qu'on peut utiliser et qui a l'avantage en fait de vraiment permettre de suivre l'évolution de la trace, puisque bah là, c'est des méthodes, en tout cas l'IRM qui n'est pas invasive, donc on peut proposer le rappel plusieurs fois au sujet et voir en fait à chaque fois quelles sont les régions qu'il va solliciter pour rappeler la même information. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est hyper important pour nous, les chercheurs, pour arriver à affiner notre compréhension de la consolidation de la mémoire.
Et concrètement, aujourd'hui, dans les études qui sont faites, c'est quoi les enjeux ? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui à comprendre dans ce lien entre sommeil et mémoire ?
Alors, il faut que je réfléchisse un peu dans les enjeux. Là, en fait, je crois que il y a quand même des choses qui nous manquent. C'est de comprendre, en fait, vraiment la contribution spécifique du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. On nous dit qu'en fait, c'est important pour toutes les formes de mémoire. On sait qu'il faut aussi oublier, donc peut-être qu'il y a un stade de sommeil qui consolide et puis un autre qui permet d'oublier, de faire le tri dans les informations, mais ça, c'est pas encore complètement clair. Ce qu'on connaît pas encore très bien, c'est quelle intervention va être vraiment efficace en fait pour améliorer le sommeil et booster la mémoire. En fait, on est capable de faire des choses dans les laboratoires. Donc les personnes viennent dormir, nous on va faire plein de manipulations, on va voir qu'on augmente les ondes, etc. et que ça va se traduire sur la mémoire. Par contre, ça c'est super, hein, ça marche dans le laboratoire, mais ce qu'on voudrait c'est que ça marche dans la vie réelle, que les gens ils puissent faire les choses chez eux s'ils ont des problèmes de sommeil et qu'ils puissent tenter d'améliorer leur sommeil pour améliorer la mémoire, mais tout en faisant des choses qui sont démontrées scientifiquement et qui sont pas dommageables pour eux, qui vont pas avoir des effets secondaires vraiment très délétères. Donc ça c'est un pan de la recherche ouais, qui se développe pas mal, surtout que maintenant on a plein d'outils portables pour enregistrer le sommeil. Les gens sont assez friands en fait de ces dispositifs, essayent de suivre et viennent nous voir en disant oui, mais regardez, est-ce que c'est normal, là je fais que 32% de ce stade de sommeil, est-ce que c'est normal? Donc on voit que les gens ont un intérêt pour ça, mais par contre il faut qu'on leur donne les outils pour améliorer leur sommeil, mais des outils qui soient sérieux et fiables. Ouais.
Merci beaucoup Géraldine Roche d'être venue à notre micro. On le rappelle, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste de la mémoire. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Demain, mercredi 15, le Dôme organise un atelier Plastizen. Les plastiques vont-ils se dégrader ? Ce projet de science participative porté par le Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement consiste à évaluer la différence de dégradation entre des plastiques conventionnels et des plastiques biodégradables. Pour assister à son lancement, c'est demain de 14 à 16 heures. Vous pouvez vous inscrire en ligne gratuitement sur le site web du Dôme. Samedi 18 janvier de 15 à 17h30, rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour un atelier à la loupe Mathéar. Cet après-midi est organisé avec les chercheurs du laboratoire Nicolas Oresme de l'Université de Caen. Architecture, dessin ou encore musique, différents ateliers et sélections documentaires vous seront présentés pour vous faire redécouvrir les mathématiques à travers les arts. Et c'est bien entendu gratuit et tout public. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Émile en régie. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.